C'est un documentaire qui fait réfléchir sur notre manière de voir les choses et de les appréhender. En juillet 2023, Marie Trintignant meurt après une violente dispute avec son compagnon de l'époque, Bertrand Cantat, rockstar de Noir Désir de son état. Dans ce documentaire enquête diffusé sur Netflix, tout s'éclaire. D'abord, retour sur ce drame et sur cette déflagration médiatique avec Elisa Tran.
Marie Trintignant, entre la vie et la mort.
La presse la prend par une dépêche. Tombée le 27 juillet 2003, la comédienne Marie Trintignant est dans le coma après une violente dispute avec son compagnon, Bertrand Cantat.
Le couple était-il sous l'emprise de l'alcool, de la drogue ?
Est-ce que c'est un accident, une dispute qui a mal tourné ?
C'est un accident, oui.
Mais on était loin de la vérité.
Les reportages s'enchaînent pour tenter de comprendre ce qu'il s'est passé dans cette chambre d'hôtel de Vilnius, où l'actrice terminait le tournage d'une série sur Colette, dirigée par sa mère, Nadine Trintignant. Sur le plateau, son amant de l'époque, le chanteur star du groupe de rock Noir Désir, vient lui rendre visite régulièrement. A priori, une relation fusionnelle entre deux artistes. La réalité, elle est plus sombre.
Bertrand est jaloux, possessif et exclusif.
Et cette nuit d'été caniculaire, Bertrand Cantat n'aurait pas supporté un message reçu par Marie Trintignant. Il la tabasse. 19 coups portés notamment au visage. L'actrice décède 6 jours plus tard. Soif de romance ou tout simplement absence du terme féminicide à l'époque, les médias s'emparent de la version livrée par le rocker. Un crime passionnel entre deux amants alcoolisés.
Je ne la reconnaissais pas. Elle m'a mis un coup de poing au visage, elle m'a frappé.
Condamné à 8 ans de prison pour homicide involontaire, Bertrand Cantat passera finalement 4 ans derrière les barreaux avant de reprendre sa carrière.
Alors avec nous en plateau, j'accueille Michèle Fine, journaliste indépendante, réalisatrice de documentaires. À l'époque, vous couvriez cette affaire pour le journal télévisé de TF1. Et puis Pauline Rongier, avocate pénaliste au barreau de Paris. Vous intervenez dans des dossiers de violence conjugale et dans ce qu'on appelle aujourd'hui des féminicides. D'abord, ce qui frappe dans ce documentaire en 3 épisodes, co-réalisé par Zoé de Bussière, Anne-Sophie Jeanne, Karine Dufour et Nicolas Lartigue, c'est effectivement la relecture de ce drame. La réécriture avec nos yeux grand ouverts aujourd'hui. Et vous, Michèle Fine, vous avez l'honnêteté de dire que vous n'avez pas vu, en tout cas que vous avez cherché à comprendre, certes, mais que ça vous a échappé d'une certaine manière. Alors expliquez-nous, qu'est-ce que vous avez compris à l'époque et qu'est-ce que vous n'avez pas vu ?
Alors, les réalisateurs m'ont demandé de me remettre dans l'esprit de l'époque.
Ah, oui.
Et ça, c'était pas évident, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de choses qu'on sait sur les féminicides, mais à l'époque, ce mot n'existait pas, on l'utilisait pas. Donc, moi, à l'époque, je n'utilise pas du tout le mot de drame passionnel, mais je vois, comme tout le monde, cette histoire sans la comprendre vraiment. Au début, on a la version de Cantat. On n'a que la version de Cantat, d'ailleurs. On n'a jamais, la version de Marie Trintignant. Et on a la version qui raconte un accident, des coups. Lui, il dit qu'il donne des baffes,
qu'elle est
tombée peut-être sur un radiateur. On en reste à la version du radiateur jusqu'à l'autopsie.
C'est accablant pour Bertrand Cantat, ce documentaire. Et il y a un matériau qui est très précieux, c'est ces 2 auditions devant les magistrats lituaniens où le chanteur de Noir Désir tente de poser des mots sur ses gestes. Mais les versions évoluent. Et là, dans l'extrait qu'on a vu dans le sujet d'Elisa Tranin, il y a une inversion de la charge.
Est-ce que
c'est classique, ça ?
Ça, c'est classique. C'est une méthode d'auteur, un marqueur de la violence conjugale, si vous voulez. Les auteurs de violence conjugale sont toujours dans le déni. C'est jamais eux, c'est toujours l'autre, c'est toujours la femme. Mmh. Et quant à ce qu'il explique, dans les 2 auditions d'ailleurs, hein, il explique que c'est elle qui l'a frappé en premier. Enfin, il fait 1m86, elle fait 1m66. On a l'impression que c'est lui la victime.
Vous, Maître Rongier, quel regard vous portez sur ce documentaire ? Qu'est-ce qui vous frappe ?
Alors pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, effectivement, on a une inversion des culpabilités.
Exactement.
Où en fait il arrive à se victimiser. Hein, donc on le voit là dans les extraits d'audition, il pleure, il a l'air abattu, etc. Il explique que effectivement c'est elle qui commence, qui donne le premier coup, ou alors qu'elle était dans un état d'hystérie. Hein, on a pu voir ce mot dans le documentaire, ou que ces mots à elle étaient encore plus agressifs que des coups. Et puis il y a un dénigrement qui est d'ailleurs relayé par la presse sur l'idée qu'elle aurait une relation incorrecte avec son ex-mari. Enfin, il essaie de faire valoir ça, ces messages qu'elle reçoit. Et donc ce dénigrement de la victime, c'est aussi quelque chose qui participe de ce mécanisme d'inversion des culpabilités.
On a effacé de notre langage ce vilain terme. On l'a pris dans le lancement, mais on l'a mis entre guillemets, on l'a pris volontairement, mais on l'a effacé de drame passionnel. Oui. Parce que drame passionnel, ce qui veut absolument rien dire,
absolument.
C'était déjà excusé quelque part l'acte, c'est-à-dire il y a de la passion, donc on peut tuer par passion.
On peut tuer par passion, sauf que ces histoires-là, c'est pas des histoires de passion, c'est pas des histoires d'amour. On se trompe quand on parle d'amour. C'est des histoires de possession. Et Quentin, comme tous les auteurs de violences conjugales, pour moi, c'est un auteur de violences conjugales comme les autres. C'est quelqu'un qui possède, qui est d'une jalousie extrême. Quand il y a ce déferlement de violence au moment qui part d'un texto.
De Samuel Benchetrit,
qui est le compagnon de Marie Trintignant, qui a un film avec elle. Il lui envoie un texto sur la promo du film et il termine par « Ma petite Janice ». Ça veut dire, c'est pas très grave, ma petite Janice.
Mais ça le met dans une rage folle.
C'est quelqu'un qui est dans le contrôle, qui contrôle son téléphone portable, qui lui envoie des textos tout le temps, qui est d'une jalousie extrême. C'est tous les marqueurs de la violence conjugale.
Et ça, souvent, on se permet de regarder le téléphone de l'autre, de ne pas respecter son intimité, de commencer déjà comme
ça. Alors tout ça, ce sont des actes matériels de ce qu'on appelle aujourd'hui le contrôle coercitif, et c'est vraiment une infraction qu'on attend en tant que professionnel des violences conjugales, qu'on attend dans le droit français, que soit reconnu le contrôle coercitif qui est exercé par l'auteur des violences conjugales sur sa victime. Mais pour revenir, effectivement, on n'est pas sur un crime d'amour, mais sur un crime de propriétaire. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental. Et cette histoire de crime passionnel, alors au départ, on avait ce qu'on appelait les circonstances atténuantes de crime passionnel, qui ont été abolies en, je crois, 75. Mais effectivement, en fait, c'est resté quand même dans les mentalités. On le voit sur la peine qui est vraiment bien inférieure à ce qu'elle aurait dû être prononcée. Et puis aujourd'hui, même si on a beaucoup évolué sur, justement, qu'on ne parle plus de manière officielle de crime passionnel, mais on voit qu'il y a eu un déplacement et qu'en fait, c'est autrement aujourd'hui que c'est introduit dans les affaires, dans les procédures de féminicide. On a de plus en plus d'experts qui vont retenir une altération du discernement de l'auteur du meurtre conjugal. D'accord.
Donc pas une pour l'amoindrir, en fait.
Dit pas qu'il est irresponsable, mais que son discernement est altéré sous le coup de l'émotion. Or, qu'est-ce que c'est d'autre que cette idée d'altération sous le coup de l'émotion? C'est le crime passionnel déguisé qui arrive dans la procédure.
Alors après, mettre quelqu'un qui rentre chez lui le soir, qui est pas forcément quelqu'un de violent, qui trouve sa femme au lit avec quelqu'un d'autre, qui se jette sur les deux, qui tue l'un des deux, en l'occurrence qui va tuer sa femme. Est-ce qu'il y a pas là une altération du discernement? Est-ce que la personne qui fait ça, et qui ne devrait pas le faire, bien sûr, qui va se livrer à cette violence parce qu'émotionnellement, il se passe quelque chose, ça serait un féminicide.
Ok, mais deux choses. Premièrement, là, vous décrivez les choses comme si le féminicide, c'était un peu un orage dans un ciel bleu. Oui, bien sûr, comme si c'était un orage dans un ciel bleu. Tout va bien, il n'y a jamais de violence, il n'a jamais été violent.
Il y a souvent des précédents, c'est ça que vous dites.
En fait, c'est l'aboutissement d'un continuum de violence qui dure sur des années, où il y a des violences physiques, psychologiques, sexuelles. Voilà. Et c'est l'issue, en fait. C'est le moment où elle part. Faut pas le voir comme un acte isolé.
Alors, il y a un autre personnage central dans ce documentaire, et je voudrais qu'on ne l'oublie pas dans la vie de Bertrand Cantat, c'est la mère de ses deux enfants, Christina Radi, qui s'est suicidée, on le rappelle, en janvier 2010 à Bordeaux. Après, d'ailleurs, un message bouleversant qu'elle a laissé à ses parents sur son répondeur, où elle expliquait que Bertrand était fou. C'est un appel au secours.
C'est un appel au secours, c'est un message fondamental, c'est un message de 7 minutes 33 secondes qu'elle laisse sur le répondeur de ses parents, 6 mois avant de se donner à mort, avant de se pendre, où elle dit « Les événements qui se sont passés en 2003, donc Vilnius, Marie Trintignant, sont en train de se reproduire en encore plus grave. J'ai échappé au pire plusieurs fois. Qu'est-ce qui peut être pire que la mort de Marie Trintignant? Bertrand est fou, j'ai failli perdre une dent, il m'a cassé le coude. » Donc elle décrit un déferlement de violence. Il y a une enquête au moment de sa mort, on écarte le crime, on privilégie la piste des suicides. Il va y avoir deux plaintes qui vont être déposées en 2013 et 2018.
Par
une avocate, Yael Melloul, qui est l'avocate de l'ancien compagnon de Christina Radi. Elle avait un nouveau compagnon. Oui. Ces plaintes vont être classées sans suite. Et cette avocate, Yael Melloul, va persister et faire voter une loi sur le harcèlement moral dans le couple qui mène au suicide, qui est un peu la loi Christina Radi. Elle l'a faite voter en pensant à Christina Radi. Pour autant, les faits concernant la mort de Christina Radi sont prescrits aujourd'hui, donc il n'y a plus d'enquête possible. Bon, moi, je trouve que le destin de cette femme, qui était magnifique, qui est venue au procès sauver Quentin...
Pour dire qu'il n'avait jamais levé la main sur elle.
Elle l'a sauvé. Il n'a eu que 8 ans, parce qu'elle a dit qu'il n'avait été jamais, il n'avait jamais été violent avec elle. Et cette femme a été la victime d'après. Bon,
vous auriez aimé être dans ce dossier? C'est une question que je me posais en préparant l'émission.
Ah bah oui, dans le dossier, que ce soit le dossier qui concerne...
Christina Radi ou le clan Trintignant.
Oui, bien sûr, parce que déjà, je me bats avec force dans chaque dossier de féminicide, et je trouve que c'est vraiment... Il y a, il y a un tel travail à mener, quoi, parce que c'est vrai que c'est impensable, c'est intolérable de dire qu'on en est là encore aujourd'hui et qu'à cause justement de problèmes de connaissances, en fait, on n'arrive pas à endiguer ce phénomène-là. Et il y a beaucoup de choses qui doivent être dites, en fait, au moment des procès, qui doivent être dites aux jurés. Enfin, souvent, je leur dis, attendez, là, quand il vous dit que c'est par amour qu'il l'a tué, imaginez, parce que intellectuellement, ça peut être séduisant comme version. Mmh. Mais je leur dis, imaginez là, vous êtes amoureux d'une femme, vous lui mettez un coup, elle a un énorme bleu, vous lui en mettez un autre, puis après elle saigne, et là vous continuez, elle vous supplie d'arrêter, vous continuez encore, vous lui tirez les cheveux. Et en fait, là, quand il voit les choses de manière aussi concrète, ils disent, ben non.
Vous dites peut-être au moment du procès. Moi, je dois au moment du verdict. Vous avez dit tout à l'heure, 4 ans. On revient à Bertrand Cantat. 4 ans derrière les barreaux avant de reprendre sa carrière. Ça, c'est la fin du documentaire. Vous avez dit, 4 ans, c'est pas cher payé. C'est vrai que c'est pas cher payé. 25 ans pour Jonathan Daval, ouais. 4 ans pour Bertrand Cantat. Ouais.
Michel, vous y repensez souvent à ce drame de Vilnius. Un problème
d'impunité au niveau de la qualification qui est retenue au départ, souvent qui est inférieure à ce que ça devrait être. Un problème d'impunité au niveau de la peine qui est prononcée, et puis après au niveau de la peine qui est effectuée. Puisque là, on a une libération anticipée, avec un juge qui part du principe qu'il ne recommencera pas, alors que c'est quelque chose de systémique, hein, les violences conjugales et de...
La preuve.
Voilà. Puis après, un problème aussi d'impunité sur la réaction sociale, parce que finalement, cette espèce de réhabilitation sociale massive et disproportionnée, ça participe de son sentiment d'impunité.
Merci. Un dernier mot, Michel. Vous, qu'est-ce que vous gardez de ce drame de Vilnius ?
Moi, j'ai l'impression qu'on avait un aveuglement à l'époque qui était l'aveuglement par rapport au féminicide. On n'a pas vu à l'époque qu'on avait affaire à un féminicide. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a un même aveuglement concernant le cas de Christina Radier, concernant les affaires de suicide forcé, et qu'on ne reconnaît pas encore assez cette autre violence qui est faite aux femmes, qui les mène à se suicider pour échapper à la violence, qui est le suicide forcé.
Merci beaucoup. Merci à toutes les deux d'avoir été sur ce plateau.